Le gang des essais.
Le gang.
Bim.
La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes.
Je vais montrer justement des femmes noires dans leur pluralité, dans leur complexité.
La plupart d'entre vous le sentent.
Attendez-vous.
Ils savent qu'on ne peut empêcher les avortements clandestins.
Bonjour à toutes, à tous et aux autres et bienvenue sur Le Gang des Hystéries, émission que vous pouvez écouter sur BFM, première diffusion le troisième lundi de chaque mois à 21h30 et aussi en podcast sur le site de Micro Rebelle. Pour l'émission d'aujourd'hui, je suis avec Touga.
Salut tout le monde.
Je suis avec Marin.
Salut.
Et il y a aussi Lily.
Bonjour.
Pour l'émission d'aujourd'hui, on va parler éducation et divertissement genré, un peu en écho à l'émission qu'on a fait le mois dernier. Mais avant tout ça, nous allons parler un tout petit agenda culturel, notre fameux agenda Q. Et Lily, tu voulais nous parler de la journée du 6 février.
Oui, le 6 février est donc dédié à la journée internationale de lutte contre les mutilations sexuelles féminines, dont notamment l'excision, celle qui est la plus connue. Donc c'est une journée de lutte internationale pour rappeler ce phénomène dont sont victimes encore de trop nombreuses jeunes filles et qui est interdit dans maintenant de très nombreux pays, mais pas tous. Par contre, il me semble que je crois que c'est le Mali qui a dû voter en fin d'année, je crois.
J'ai cru voir passer un truc comme ça dans les recherches tout à l'heure. Ouais.
Donc la loi est passée, il est donc maintenant interdit d'exciser les enfants. Mais bon, il faudra du temps évidemment pour que ça s'intègre au niveau coutumier, parce qu'on sait bien que c'est pas parce qu'un gouvernement décrète une loi que hop, tout de suite ça. La loi est intégrée dans toutes les familles, tous les départements, tous les recoins du pays. Donc voilà, on souhaite à nos sœurs maliennes que ce travail soit rapide et qu'elles soient libérées de cette coutume douloureuse et inutile. Et il me semble que au niveau mondial, la circoncision, donc chez les garçons pour le coup, je ne sais pas si ça peut être clair pour tous nos auditeurs, auditrices, mais donc il y a bien l'excision qui est donc une mutilation sexuelle sur la vulve, donc le sexe des femmes, où on peut couper le clitoris, les petites lèvres, voire aussi les grandes lèvres et recoudre les grandes lèvres, avoir quelque chose de lisse et laisser juste un petit orifice pour s'échapper les règles. Et la circoncision, c'est l'ablation du prépuce, donc la peau qui recouvre le gland et qui, elle, n'a rien de comparable avec l'ablation du clitoris qui, lui, est nervuré, hein, 8000 terminaisons nerveuses rien que dans le clitoris. Le prépuce...
C'est un morceau de peau.
C'est un morceau de peau. Mais
pour faire la différence, le clitoris, en fait, c'est le pénis entier chez les hommes.
Voilà.
Donc,
ouais.
Donc si on vous enlève le pénis,
on compare, voilà. Ça fait tout de suite bizarre.
Ouais.
mais par contre, la circoncision commence à être vue de plus en plus comme une mutilation également chez les petits garçons et sera remise en question, je pense.
Il faut bien préciser que la circoncision, c'est bien par rapport à ce qui est fait dans certaines religions quand on fait tout jeune, etc. Après, il y a des problèmes de santé où on est obligé d'enlever le prépuce. Mais là, on parle bien de chez le jeune enfant qui n'a pas décidé par lui-même de...
Ça, et puis coutumier, parce que aux États-Unis, énormément de monde se circoncie les enfants. Et c'est plus tout à fait pour des raisons religieuses, par exemple. C'est vraiment une habitude culturelle.
On parle souvent d'hygiène par rapport à ça aussi.
Voilà. Oui, mais enfin, c'est un peu comme les cheveux et les poils, il suffit de se laver quand même. Voilà. Quand on a les cheveux sales, on ne va pas se les arracher, on se les lave. Hein. Donc si on a un problème de saleté avec son pénis, on peut le laver aussi avant d'imaginer le découper. Mais du coup, oui, effectivement, les enfants, on ne leur demande pas leur consentement. Et donc ça sera peut-être mis en question.
Et Lily, pardon Flo.
Non, vas-y.
Sur les parties de la vulve, on utilise effectivement encore pas mal de fois petites et grandes lèvres, mais on peut aussi se souvenir que les petites peuvent être plus grandes que les grandes. Donc on peut aussi utiliser les termes de externe et interne, enfin voilà, intérieur, extérieur. Ouais.
Tout à fait.
Et dans les histoires de mutilation, il y a aussi les personnes intersexes qui naissent avec les deux organes, en tout cas la partie extérieure, et dont souvent des médecins, et même en France, demandent aux parents, vous voulez garder lequel ?
Donc, et souvent l'imposent d'ailleurs même. Hein.
On l'impose, en gros les parents sont obligés de choisir, en gros ils ont les deux, on ne peut pas définir est-ce que c'est une fille ou un garçon, donc il faut choisir. Donc j'espère que là aussi il y aura des avancées dans les réflexions un peu plus tard.
Voilà.
Donc c'était la journée.
Ça urge. Hein,
le 6 février donc.
Donc le 6 février, donc journée internationale de lutte contre les mutilations sexuelles féminines. Merci Lily. Donc on arrive à notre thème d'aujourd'hui, donc éducation et divertissement genré. On a fait une petite problématique, on est bien scolaire aujourd'hui. De comment éduquer alternativement les enfants par rapport à l'éducation genrée traditionnelle qu'on connaît aujourd'hui. Et on voulait parler des activités dites masculines et des activités dites féminines. Donc,
J'étais en train de me dire, maintenant qu'on t'a avancé le fait qu'on a fait une problématique et tout, il va falloir qu'on se tienne à y répondre, à avoir
première
le truc,
partie,
tag,
attention. Non, mais la prochaine fois,
la pression, là.
La prochaine fois, l'émission, on se la fait en sonomaton dans la salle de travail, d'accord?
Oui,
comme ça, au moins, on a notre enregistrement et on s'embête pas à enregistrer.
Donc, on prévient nos auditeurs et auditrices qu'on avait tout bien pensé et tout vachement dit juste avant d'enregistrer. On espère que là, maintenant, ça va sortir aussi bien. Mince, c'est pas sûr.
Donc oui, on veut revenir par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois déjà sur les jouets genrés, où on disait même que sur les jouets, les filles, c'était plutôt les trucs à la maison, les garçons, c'est le pompier à l'extérieur, etc. Donc on voulait revenir sur l'impact que ça avait en fait sur l'éducation des enfants, tout ça.
Oui, on avait déjà beaucoup parlé de stéréotypes, en fait. Je pense que l'idée de base, c'était ça, ça devenait flagrant à l'arrivée de Noël. Et des agendas, pas des agendas, des, comment on appelle ça, les catalogues.
Catalogues
et tout, où on voyait ressortir une grosse attaque de stéréotypes de genre avec les couleurs. Voilà,
le rose, une belle binarité bien marquée.
Ouais, bien marquée et tout. et qui pourrait paraître anodine si ça en restait, si ça en restait que là. Mais on va peut-être essayer de discuter de ce que ça implique dans la société, déjà que que ces stéréotypes injectés dès la prime enfance, quand on peut avoir le prisme de se dire non, on ne vit pas dans une société égalitaire, même si on a depuis 100 ans vachement travaillé sur le droit et dans l'état de droit, le droit des personnes, il reste encore énormément à faire, puisque on ne peut pas décréter l'égalité. On peut toujours dire oui, les filles et les garçons sont égaux, égaux. Les hommes et les femmes sont égaux, égaux. Déjà, on occulte du coup une partie des gens qui se sentent peut-être ni filles ni garçons, ou les deux, ou fluides. Donc c'est déjà une complexité. En plus de ça, c'est pas parce qu'on l'a décrété dans la loi que clairement ça se traduit dans la société, dans la culture et notamment dans les familles. Et c'est ce que les mouvements féministes ont voulu s'atteler. Donc on a les combats, le féminisme première vague qui lutte pour le droit de vote la réelle place des femmes dans la société. La deuxième vague dans les années 60-70 qui fait un énorme boulot pour notamment les droits en matière de sexualité, mais pas que en fait. C'est aussi le droit à son propre compte en banque, à l'émancipation. Cette période, elle a permis énormément
alors c'est les avancées,
de choses, mais c'est
sociétal,
c'est un peu naze,
des avancées sociétales,
voilà, des avancées sociétales, émancipatrice. Et là, on s'aperçoit qu'il restait peut-être un impensé, notamment dans l'éducation, puisque du coup, on a beaucoup parlé, on repense à Simone de Beauvoir, qui nous a écrit des tas de livres.
Tu veux retomber sur...
Tu me fais un petit claquement de doigts.
Oui, puis c'est pas ça, c'est qu'on a beaucoup pensé l'éducation des filles pour parvenir à pour s'émanciper, il fallait devenir être capable, montrer qu'on était capable, qu'on avait les compétences, les mêmes compétences que les hommes. C'est-à-dire que l'éducation genrée, on peut la résumer comme si une éducation trop traditionnelle et qui serait genrée, elle essentialise les personnes en fonction de leur sexe, comme si le fait de naître avec tel ou tel sexe imposait immédiatement des compétences sociétales. On naîtrait avec une vulve, on serait donc plus apte à faire la vaisselle ou s'occuper des enfants, et on est avec un pénis, on serait plus apte à diriger une entreprise et être plombier ou je sais pas, ça vous va jusque là, c'est assez strabinaire, être stéréotypé là comme truc, c'est cliché. Donc il y a eu cette première pensée là du mouvement féministe sur que les filles aient accès au même divertissement que les garçons et puissent acquérir les mêmes compétences.
Effectivement, et je pense que c'est sur cette vision-là qu'on a décidé de proposer cette émission aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, on pense qu'il y a des compétences, comme tu disais Lily, dites masculines, hein. À chaque fois je vais employer ces mots, dites féminines, dites masculines, parce que comme vient de le dire Lily, nous on pense qu'il n'y a rien qui est assimilable à un sexe, en fait, dans les compétences, que ça n'a rien à voir. Et donc effectivement, les mouvements féministes ont beaucoup voulu participer à l'éducation des filles en voulant les émancipant, et pour ça en les faisant acquérir des compétences dites masculines, donc la confiance en soi, la force, la pugnacité, ce genre de choses. Et on insiste sur le fait qu'effectivement, dans ces compétences et savoir-faire et valorisation dites masculines, il y en a qui, on le pense, sont effectivement émancipatrices. Après nous, en tant que personne féministe ici autour de cette table, on pense que ces valeurs-là, en fait, doivent être inculquées autant aux filles qu'aux garçons. Et c'est le point de départ de cette émission, c'est de se dire qu'on a beaucoup insisté sur ça, mais qu'il y a aussi et autant de valeurs, de compétences dites féminines qui sont émancipatrices, en fait, et qui sont très souvent reléguées sur le côté parce qu'on pense qu'elles sont... que des occupations, des passe-temps secondaires, d'intérieur, domestique. Et en fait, quand on creuse un peu plus, et là je fais un petit big up à Dominique qui n'est pas là, elle prenait l'exemple du tricot, où en fait c'est une compétence, un savoir-faire qui requiert beaucoup de choses, de compétences, de technicité, intelligence, concentration.
Et on parlait tricot, mais couture en général. C'est ce que on disait tout à l'heure, en fait, une personne qui, en plus, là, en ce moment, on reparle de reconfinement, etc. Donc, au lieu d'aller acheter vos vêtements dans une boutique, vous voulez payer 10 balles, mais c'est fait par des petites mains à l'autre bout du monde. Peut-être que de vouloir créer, c'est...
Voilà. Et puis que ça traverse la moitié de la planète. Et que pour construire l'usine, il a fallu déforester en Chine. Et que bizarrement, en déforestant en Chine, on est tombé sur un pangolin ou une chauve-souris, on ne sait pas encore. Et que là, vlac, vengeance, nous colle un virus mondial. On pourrait peut-être repenser ces modes de consommation et revaloriser les personnes badass.
Et t'as oublié aussi que pour un jean, il y a je sais plus combien de milliers de litres d'eau qui sont utilisés. Au passage, ça sera très écologique.
Les polluants, les produits chimiques.
Donc revenons à la couture et créons nos propres habits, quoi.
Et à quel point une personne peut être badass, peu importe le sexe qu'elle puisse avoir, si elle est en mesure d'être autonome et de savoir se vêtir, parce que comme c'est quand même un truc de fou, notamment quand si on aime un peu la mode, ce qui n'est pas nécessairement mon cas, mais le fait de se dire qu'on a quand même vachement, en donnant l'impression de donner énormément de choix avec ce capitalisme, ce consumérisme à outrance, on a tout un tas de magasins et tout, on a l'impression qu'on a plein de choix, mais en fait, on est quand même, si on se regarde bien, on est quand même à peu près toutes et tous habillés pareil. Là, le fait de pouvoir créer ses propres modèles, ça nous donnerait...
On sort du lot,
c'est quand même chouette et tout, et c'est une vraie valorisation d'une compétence qui s'est perdue. On a ringardisé Mémé parce qu'elle savait faire du crochet et du tricot, et en fait, Mémé, elle sait toujours faire... elle s'est après cantonnée aux layettes pour les nouveau-nés, mais elle est en mesure de faire des pulls, des écharpes, les tours de cou, des tas de choses, et en couture, effectivement...
Il y a eu une petite vague au début des années 2010, peut-être autour de clubs de tricot ou de couture dits masculins, mais là aussi on retrouvait, c'était aussi en non-mixité souvent, et je pense que ça s'est un peu perdu depuis, il y a un retour de...
Mm-hmm. Donc il y a cet exemple-là,
sans tout ça.
Mm. Et on en voit, je crois qu'il y a, je sais plus qui me parlait de quelqu'un...
Je connais plein de gens qui ont une machine à coudre pour Noël et qui s'éclatent.
Mais il faudrait que je vais essayer de retrouver avant la fin de l'émission, mais un homme connu, mais plutôt type motard ou de hard rock, enfin voilà, le type qui s'affiche vraiment le truc viril et tout, et qui en fait tricote.
C'est pas Jared Leto ?
Je cherche. Ça va revenir.
Peut-être à la fin de l'émission.
Ça va. L'illumination de fin d'émission, on aura peut-être la réponse. Mais effectivement, alors après, dans l'idée d'avoir une machine à coudre, c'est pas forcément pour des habits perso, c'est pour d'autres activités culturelles, on va dire. Mais c'est vrai que d'en avoir une, ça. Et puis moi, j'ai toujours vu mes grands-mères avec une machine et toujours en train de repriser ou en train de créer une pièce ou quelque chose. Donc. C'est des choses qu'on aimerait perpétrer aussi. Donc, il n'y a rien de dévalorisant à savoir coudre ou tricoter.
Mmh. Et pour revenir du coup sur ce mouvement un peu de valorisation des activités et des savoir-faire dits féminins, on s'est dit qu'en fait, il y avait plusieurs choses en parallèle qui pouvaient être menées, c'est-à-dire à la fois ce dont on parlait au début, qui est qu'évidemment, on a envie aussi d'empouvoirer les petites filles et les filles sur des compétences ou des savoir-faire dits masculins et qui sont pour nous valorisants et émancipateurs. La confiance en soi, le fait de ne pas se laisser faire, le courage, la force.
Le leadership, je ne sais pas comment on dit ça en français.
Tu avais parlé d'ambition tout à l'heure aussi, enfin de valoriser cette caractéristique.
Ce serait la même chose, ambition, leadership. Enfin non, le fait de pouvoir être chef, c'est-à-dire de mener... Ouais. De mener un jeu, de mener les débats, de prendre sa place publique, en fait, dans la classe ou autre. C'est ça, un truc qu'on valorise vraiment beaucoup chez les, chez les filles.
C'est sûr. Donc, à la fois ça, à la fois valoriser, comme on vient de le dire, chez les petits garçons, les jeunes hommes et les hommes, des activités dites féminines. Et moi, je verrais aussi, dans un troisième mouvement, c'est ce dont on parlait avant l'émission, de faire en sorte qu'en fait, toutes ces compétences et ces savoir-faire valorisés soient distillés pour tout le monde, en fait, pour toutes et tous. Et c'est-à-dire que le fait de pouvoir pleurer et de le montrer à un moment donné et de parler de ses émotions, oui, on va faire en sorte que les garçons s'autorisent à le faire et que ce ne soit pas réprimandé, comme ça l'est souvent, malheureusement. Mais que, en fait... On l'accepte aussi chez une fille. C'est ça l'idée. Que, en fait, quand on dit qu'on valorise ce qui est féminin, c'est évidemment finalement pour tout le monde. Quoi. Dans cette idée aussi de casser cette binarité de genre et d'arriver à une éducation émancipatrice qui soit valable pour tout le monde, pour effacer vraiment ce clivage genré. Quoi.
Et qui rendent libre. L'idée, c'est pas. Parce que ce qui peut être reproché. Parce qu'on le sait qu'à chaque fois qu'on a voulu reparler d'égalité à l'école, ça a fait des grandes levées de boucliers de tous les milieux traditionnalistes. Pour le coup, là, souvent l'extrême droite catholique ou extrême droite musulmane et tout se sont très très bien entendus entre elles pour se dire oh là là, pas de ça. L'éducation des enfants et notamment l'éducation à la sexualité doit rester intrafamiliale. Alors il y avait deux confusions. C'est-à-dire que. Ce que le mouvement féministe peut entendre derrière sexualité, c'est pas le sexe, c'est pas la pratique sexuelle. La sexualité, c'est l'estime de soi, c'est ça va de l'éducation aux lois sur le mariage ou autre, enfin la sexualité, c'est tout, c'est la manière dont on se perçoit comme un petit garçon, comme une petite fille, ou dont on ne sait pas comment on peut encore se percevoir, c'est des tas de choses. Mais quand on parle d'éducation à la sexualité à l'école, évidemment qu'on ne va pas aborder de pratiques sexuelles ou autres, mais ça les a bien arrangés, ces milieux traditionnalistes
des gros amalgames avec de la pornographie ou autre,
voilà, pour faire peur, pour ne pas aborder
la masturbation en maternelle,
voilà, pour ne pas aborder, alors que par exemple ces derniers jours on l'a vu, les derniers scandales autour de l'inceste et puis les dernières statistiques montrent bien que cette éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle doit pas être laissée aux uniques familles, puisque on dit que 6 millions, presque 6 millions et demi de Français ont pu être victimes d'inceste. Il y a bien un intérêt à ce que la République se pose sur cette question-là et l'applique et s'en empare et en parle à l'école. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, évidemment.
Il y avait un deuxième écueil, je ne sais pas si tu voulais parler de la distinction à faire entre le genre et la sexualité, qui sont deux choses qui n'ont rien à voir.
Oui, ce qu'on a peur quand on voudrait dire de laisser par exemple les garçons jouer à la poupée, il y a une grosse angoisse de se dire mais si je le laisse à la poupée, il va devenir comme une fille. Donc on voit bien, on sent tout de suite la dévalorisation, c'est-à-dire devenir comme une fille, c'est déjà dévalorisant. Alors si on avait travaillé là-dessus, on pourrait juste se dire bon bah...
Comme une fille
efféminée, donc ça sous-entend juger son éventuelle orientation sexuelle, ouais. Et donc s'il jouait à la poupée, il deviendrait gay, et donc là on sent toute l'homophobie qu'il peut y avoir derrière, alors qu'en fait la phase de développement des enfants... de 2 à 4, 6 ans, c'est l'imitation. Elle passe par l'imitation du monde, l'imitation des adultes. Et un garçon qui joue à la poupée comme une fille qui joue à la poupée se prépare à être un futur éventuel parent ou un futur éventuel, je sais pas, infirmier, aide à domicile, aide-soignant. Voilà, on sait qu'on retrouve énormément les femmes dans les métiers du soin, donc du care. Donc ça va de infirmière, aide-soignante, je le redis, sage-femme, aide à domicile. On sait qu'il y a beaucoup plus de femmes dans ces métiers-là. Bizarrement, la plupart sont nettement moins payées et sont très peu valorisées. Alors qu'on l'a vu avec le confinement, l'importance vitale des métiers du soin. Et donc c'est des métiers qu'il faut revaloriser pour qu'éventuellement il soit aussi plus mixte et qu'une fois mixte, il serait à nouveau, au niveau de manière salariale, revalorisé. C'est-à-dire que ça ne viendrait pas à l'idée à une entreprise qui embauche, par exemple, des représentants commerciaux, de les envoyer se déplacer avec leur voiture, par exemple, pour une bouchée de pain. On leur donne une prime d'intéressement à la vente ou ce genre de choses. On leur donne aussi une voiture de fonction, une aide à domicile. Elle démarre avec un salaire de merde, sur des horaires hyper partiels et avec sa propre voiture. Donc on demande aux gens de savoir faire ça. Et s'ils ne le font pas, s'ils préfèrent, entre guillemets, rester au chômage ou aux minima sociaux, on les accuse après de fainéantise. Et donc on est là un peu sur un truc un peu compliqué, un peu... avec des injonctions paradoxales.
Et on parlait aussi de l'orientation scolaire. Sous prétexte de la pression, soit familiale, soit des potes, parce qu'ils vont tous aller en général, ils vont tous faire médecine et tout ça, un ou une élève ne vont pas forcément s'intéresser à un métier qui pourrait leur plaire et vont se calquer sur papa, maman a dit ça, les potes ils vont là-bas donc je vais les suivre aussi. Et il y a peut-être des vocations qui sont ratées à cause de ça.
On voit un double sur les cursus, on voit vraiment l'impact clair du stéréotype. C'est-à-dire qu'un des stéréotypes, c'est que les filles seraient moins douées en maths ou en spatialisation par exemple.
En sciences en général.
On le voit parce que du coup, sur les jouets qu'on peut leur proposer ou les activités, on va très peu leur proposer. Alors même dans la construction, quand on leur propose des Legos ou ce genre de choses, ce sont des Legos qui sont déjà pré-construits. On leur propose juste d'assembler et de jouer à l'intérieur de ces Legos. Alors que les garçons, vu la couleur ou autre, on va leur proposer beaucoup des mécanos, des choses comme ça, des trucs de construction. Donc ils développent des compétences de spatialisation et de construction qui sont tout à fait possibles de développer chez les femmes. Mais comme on ne le fait pas, nécessairement on trinque balle ce stéréotype jusqu'au bout du cursus et où on a peut-être moins de femmes représentées dans les milieux scientifiques. Là-dessus, il faut ajouter après le plafond de verre, la misogynie ambiante, ou même quand il y en a, elles ont du mal à se faire leur place parce qu'on ne va pas les choisir ou on va les tacler ou on va invisibiliser, voire voler leurs travaux. C'est arrivé énormément de fois dans l'histoire.
Et des grands scientifiques dont on connaît bien les noms aussi.
Voilà. Mais le stéréotype, un miroir chez les garçons, c'est de penser que le garçon doit être, pour être un vrai mec, doit être viril, turbulent, brutal. Et on voit que dans les collèges, 80% des faits de violence verbale, violence physique et de vandalisme sur les objets ou autres sont le fait de garçons. Et on déplore, on a des enseignants et des parents qui voient les garçons ou leurs fils sombrer avec des notes, des moyennes lamentables alors qu'ils ont des capacités, mais qui ne peuvent pas les développer parce que s'ils les développent, on remettrait en question leur genre ou leur sexualité. Et pour éviter les colibés, on préfère flinguer sa scolarité plutôt que d'être mal jugé par ses copains. Et donc on voit bien la manière dont les stéréotypes enferment et dont l'importance d'une éducation féministe pour rendre les enfants libres de faire leurs propres choix et de développer des compétences qu'ils auraient acquis pendant leur prime enfance et de se retrouver bien plus épanouis dans une vie d'adulte.
Et par rapport à ça, tu as une référence à nous donner bibliographique ?
Oui, on vous propose de lire le livre d'Aurélia Blanc qui est intitulé « Donc tu seras un homme féministe, mon fils », qui est un manuel d'éducation antisexiste pour des garçons libres et heureux, libres et heureux, avec les liaisons fatales, aux éditions Marabout, et qui reprend un peu ce dont on a parlé et qui insiste bien sur l'impensé de l'éducation des garçons. Parce que tout le temps où on a pensé l'émancipation des filles, on s'est dit, comme le dit Gloria Steinheim, alors que nous avons le courage d'élever nos filles comme nos fils, il faut maintenant avoir le courage d'élever nos garçons plus comme nos filles. Et là, on pourrait peut-être atteindre ou se rapprocher de l'égalité.
Merci. Donc, on fait une petite pause avec Mélodie Spire et la musique qui s'appelle Cœur malade. Et on revient de suite après ça.
Là où le monde est bon, il y a ni balle au moins la demi, toi la moitié. Je suis plus seule, je t'ai trouvé. Là où le monde est beau, il y a ni froid ni chaud, c'est de notre température. Je repars de la part de l'humeur. Là où le monde est beau, je tire des scènes sans force, une perfection chaque payée. Je m'en fous, je suis aimée. Ton cœur malade. D'une grenade. Là où le monde est bon, je t'ai glissé quelques mots. Alors qu'on se parle en enfer. Et là où le monde est bon, tu passes sur mes épaules. Tu les disloques si bien, je crois guérir entre tes mains. Et là où le monde est beau, y'a plus de vrai, y'a plus de faux. Y'a que des histoires un peu glauques où on pense qu'on est fait l'un pour l'autre. Ton cœur malade, de mon cœur malade, il danse la valse. Ton cœur malade, de mon cœur malade, autour de grenade. Population et ambulance, cette direction, état d'urgence, médication ou dépendance. Puis le passe avec de l'eau. Qu'on se retrouve là où le monde est bon.
Le gang des hystériques.
Le gang.
Bim.
De retour sur le gang des hystéries et on voulait refaire une petite parenthèse sur le thème qu'on vous a abordé juste avant la petite pause musicale. Et Marin, tu voulais rajouter un petit quelque chose
non,
sur...
C'était une réflexion qui est née de nos différents échanges. C'était que finalement, on pouvait constater dans nos sphères amicales ou militantes que les personnes qui arrivent à se réempouvoirer et à avoir accès et à avoir tous les outils, un panel très diversifié d'outils, qu'ils soient dits masculins ou féminins, mais surtout pour le volet valorisation de ce qui est étiqueté de féminin, entre guillemets, eh bien, ces personnes sont plutôt les personnes de la sphère queer qui vont valoriser, alors ça passe partout, hein, des couleurs, des accessoires, des choses qui sont par ailleurs dénigrées et parce que fortement connotées féminins.
Et autant des personnes donc, queer, donc, c'est-à-dire des personnes qui s'identifient soit comme femme, soit comme homme, soit comme non-binaire, soit comme fluide, soit comme trans, soit comme plein d'autres identifications possibles, qui ont des passings, c'est-à-dire une manière dont on peut les voir, nous, personnes extérieures, soit féminines, soit masculines, soit tout mélangé, parce que c'est souvent ça dans la communauté queer, l'idée qu'en fait il n'y ait pas de distinction binaire très définie et très identifiable. Et je te rejoins là-dessus, Marin, c'est tellement chouette ce qui est proposé par beaucoup de personnes queer, cette idée qu'on peut se revendiquer non-binaire en ayant à la fois une barbe, des talons hauts, des vernis sur une main et voilà, il y a une clope dans l'autre.
Sur l'autre.
Sur l'autre, voilà, merci, c'est mieux que la cigarette. Et que donc voilà, c'est cette idée que au-delà de se dire que des personnes identifiées purement filles feraient des trucs purement masculins et inversement, se dire qu'en fait, voilà, casser cette binarité et valoriser, parce que effectivement, au premier abord, en tant que personne socialisée femme et féministe, on peut se dire ah, le rose, jamais. Et en fait, ça peut être trop classe d'avoir du vernis à paillettes, rose sur les doigts. Voilà. Donc, je terminerai là-dessus en disant que je te rejoins.
Avec des paillettes unicorn, galaxie et compagnie, c'est génial. Pour la suite.
Et ben là, on se proposait. En fait, ça va. On poursuit les échanges là-dessus parce que quel média on a pour éduquer les enfants en dehors effectivement de l'école, hein, par exemple, ou de l'éducation très descendante des parents vers les enfants. On a différents médias comme la lecture, les jeux, les dessins animés, les jeux vidéo. Enfin voilà, il y a plein de choses et on vous en a déjà parlé à la précédente émission. Dominique était là. Plusieurs membres du planning familial du Pas-de-Calais ont donc monté un atelier qui permet de réaborder un peu toutes les questions, toutes ces questions dont on vient de parler. Auprès des enfants, enfin des adultes qui accompagnent des enfants, qu'ils soient parents ou qu'ils soient professionnels, donc dans un atelier qu'on a intitulé « Libre et égal, égaux en se divertissant ». Et pour l'instant, il a trois volets, puisque le premier, c'est autour de la littérature jeunesse, où donc on a beaucoup parlé de la transmission des stéréotypes via les livres jeunesse et l'importance d'offrir des livres qui permettent des modèles très divers. Et donc aller sur un garçon qui pour une fois ne sauvera pas la princesse mais ira jouer avec sa copine une grande aventure dehors et ne se battra pas et sera gentil et pourra dire un moment qu'il est triste ou qu'il est amoureux, enfin voilà, parler de ses émotions ou qu'il pleure, et une princesse qui attendra pas d'être sauvée mais qui hop, sortira de sa tour, ira voir un peu du pays et sauvera peut-être un prince ou le dragon, pourquoi pas. Enfin voilà, on a proposé des
bah oui,
des
les dragons choses. Ils peuvent être gentils, bah, ils sont oui, pas oui, tous oui, méchants.
Voilà, le dragon, hein, il n'y en a plus d'ailleurs, hein. Ouais. Voilà, hein.
Il y en a même qui ont du vernis.
Ce n'est pas un hasard. Après, donc le deuxième volet, c'était autour des jeux.
Il y a une histoire là, il y a une histoire là. La princesse et l'ami dragon avec du vernis, il y a une histoire là, je pense.
Et le deuxième volet, c'était donc autour des jeux. Quels sont les jeux traditionnels? Quelle place on laisse? Comment on accompagne les enfants dans le jeu? Et surtout, pourquoi on joue et comment le jeu permet de développer en fait l'être humain? Et donc, il y a des experts de la petite enfance, du développement, voilà, les neurosciences, les puéricultrices, puériculteurs. Enfin, voilà, il y a plein de chercheurs, chercheuses qui sont penchés là-dessus. Et donc, il y a des phases de développement. Qui ne sont pas genrées, c'est-à-dire c'est des phases de développement et derrière lesquelles on peut mettre des jeux qui permettent, par exemple, on va faire rapidement un truc qui est très évident pour tout le monde, 0-1 an, c'est la phase de découverte de soi, prise de conscience de soi et découverte du monde, donc on appelle ça la période sensorimotrice, parce qu'on développe les sens, donc on va développer les connexions nerveuses de notre cerveau grâce au sens, donc le toucher, le goût, l'ouïe, la vue et tout. Donc c'est important de faire écouter de la musique, de montrer des choses, de faire toucher des choses aux enfants. Et c'est pour ça aussi qu'ils mettent tout à la bouche pour tout découvrir. Et moteur, on développe la motricité en les laissant nous jeter des jouets en pleine tronche et s'amuser à voir qu'on est vachement bien comme jeu parce qu'on leur rend à chaque fois, puis ils relancent et puis on leur re-rend et tout. C'est super.
On fait attention aussi pour les stimulus, on évite la télé quand même.
Voilà,
à cet âge-là.
Voilà, effectivement. Hein. Et puis donc le troisième volet, maintenant que tu parles de la télé,
oui, on l'a quand même intégré. On parlait des 0 à 1 an.
Voilà, mais on l'a intégré, on sait que les écrans sont assez mauvais, voire pas mal mauvais pour le développement des connexions nerveuses, mais je veux dire, on va pas se culpabiliser. On sait que les écrans maintenant sont partout dans nos sociétés, que ce soit la télé, mais le téléphone, les tablettes, voilà,
l'ordinateur,
on en a partout dans la maison, mais on en a partout dans la rue, dans les bars, bien qu'ils soient fermés et que c'est peut-être pas le premier lieu où on met les enfants. C'est vrai, pardon. Mais bon, enfin voilà, il y en a partout, il y en a dans le métro, il y en a, voilà. Excusez-moi.
Oh, une petite grenadine à 5 ans avec papa qui boit sa bière.
Oui, bah oui, voilà, mais voilà, effectivement. Il faut être lucide. Les enfants vont aussi dans les bars. D'ailleurs, on revendique le fait qu'il y ait plus de bars autour des parcs pour enfants. Comme ça permettrait aux mères et aux pères qui s'occupent de leurs enfants de pouvoir boire une menthe à l'eau en surveillant les
enfants. Une boisson
soft
non alcoolisée pendant... Voilà.
Mais donc, les écrans sont partout. On sait qu'ils sont mauvais. Alors, il vaudrait mieux les proscrire au moins jusqu'à 3 ans, puis après les limiter à grand max une heure par jour. Si on peut, après on sait que des fois on ne peut pas faire autrement. Je pense aux familles monoparentales, voilà, quand il faut réparer un truc ou faire à manger ou autre et tout, et que la fratrie est pas mal pénible et a décidé de ne pas se gérer tout seul, mais de se maraver la tronche entre frères et sœurs pour je ne sais quoi, je ne sais quelle raison encore.
Et pour donc, que tu retrouves des touffes de cheveux par terre.
Voilà,
voilà.
Et que, donc du coup, ça peut être des fois un peu plus facile. Et donc, on sait aussi que ce média-là véhicule énormément de valeurs qui peuvent être positives, comme des fois nettement moins positives, parce que véhicule beaucoup de stéréotypes. On sait qu'il y a beaucoup plus de dessins animés où les garçons sont les héros, le héros central, dans les petites séries notamment, et où ces héros-là sont toujours amenés à sauver le monde. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de pression, quoi. Il faut toujours qu'ils soient forts. Et on voit que c'est un stéréotype qui est néfaste pour les garçons. Parce que souvent, on a l'impression que la lutte pour l'égalité, elle bénéficierait qu'aux filles et aux femmes. Mais je voulais vous donner un peu quelques statistiques, par exemple, que l'on retrouve dans le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, « Tu seras un homme féministe, mon fils ». Il y a un paragraphe qui est dédié au coût de la masculinité dite toxique, la manière dont on a pensé jusqu'alors la masculinité comme dominante, hein, comme virile, axée sur le pénis, sur la puissance. Et ben, ça donne 75% des morts de la route sont des hommes. 92% des personnes qui se tuent en deux roues sont des hommes ou des garçons. 92% des conducteurs impliqués dans des accidents mortels avec un taux d'alcool illégal sont des hommes ou des garçons. 96,1% des détenus sont des hommes. 97% des personnes condamnées pour violences conjugales sont des hommes. 80% des morts par overdose sont des hommes. 59% des élèves décrocheurs sont des hommes. Donc on se rend bien compte que certes, les femmes, les filles sont victimes de la brutalité et de la masculinité toxique des garçons ou des hommes, mais par lien direct, mais en même temps, les hommes eux-mêmes sont leurs propres victimes de ces stéréotypes. Mmh. D'où un intérêt de proposer dans les différents médias différents modèles. Et par exemple, c'est quelque chose qui est compliqué parce que autant du coup les mouvements féministes et les créateurs, créatrices, les autrices de BD et de bandes dessinées maintenant nous proposent des figures féminines plutôt badass, je pense... quand on voit la différence, mais tu vas peut-être pouvoir nous en parler, Florian, la différence entre, Blanche-Neige ou La Belle au bois dormant, qui, soit dit en passant, je ne sais pas si tu vas le préciser, hein, mais ce baiser sur la princesse endormie est pas vraiment problématique niveau consentement, mais symptomatique de la culture du viol dans laquelle on peut se trouver. Maintenant, on a en face, on a La Reine des Neiges. Alors certes, je sais que les adultes en font une jaunisse parce que...
Libérée, voilà, c'est vrai.
On a souffert, on a mené des combats difficiles.
Pendant longtemps.
Mais n'empêche que ces princesses-là, ces reines-là, elles sont libérées. Ne s'assignent pas, ne se considèrent pas qu'au travers du couple.
Ouais, c'est ça.
Voilà, elles embrassent leur force. Hein. Elle a longtemps essayé de cacher ses pouvoirs. Puis au bout d'un moment, elle se dit je suis la seule à avoir des pouvoirs. Je suis trop con, je vais m'en occuper. Voilà. Et hop, elle se lâche et elle s'occupe de son pouvoir. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir geler tzlac comme ça, tout le monde et tout ça quand même. Vaiana aussi, premier, ouais. Je crois que c'est un des premiers Disney avec une héroïne racisée. Qui va être la chef de son village, dont le père la présente comme telle, ne se pose pas la question de se dire « Ah merde, j'ai pas eu de fils, comment je vais faire pour transmettre mon truc ?» Non, non, il a eu des enfants, il a eu une enfant, un enfant qui est une, et bim, c'est pas grave, c'est elle qui récupère. Alors bon, c'est vrai que ça pose problème de démocratie, de trucs un peu de népotisme, soit on peut pas tout traiter dans un dessin animé, mais et elle sauve la planète, Rihanna.
Effectivement, on voit que les dessins animés de la firme Disney, c'est une évolution en fonction de la société. Quand on voit, si je dis pas de bêtises, Blanche-Neige, c'est quand même les années 1930. Donc on remonte très très loin au niveau de la société et on voit bien qu'en fonction de quand t'es la période ou la date de sortie du dessin animé, on voit la société qu'il y avait à l'époque. Donc effectivement, au début, on a la jeune fille qui est principalement une princesse déchue. Alors là, je reprends les dires de Sarah, de notre comparse qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais elle disait qu'on a quand même trois figures de femmes dans les vieux Disney, même qu'on peut retrouver encore aujourd'hui. C'est la jeune fille, donc princesse déchue, la sorcière mauvaise fée ou marâtre qui est jalouse de la jeune fille. Et on a aussi la bonne fée qui est soit la grand-mère, soit la marraine. Et donc on va avoir ce trio qui va fonctionner. Donc comme tu disais au début, on est surtout autour de l'amour. Rien n'est fait en dehors de la famille, du mariage, et c'est ça qui est très important. Et on va avoir aussi confrontation avec la fameuse sorcière, la méchante, où c'est quelqu'un qui aurait pu être une jeune fille toute belle, toute gentille, mais qui n'a pas trouvé l'amour, et donc elle se venge des années plus tard parce que...
C'est la frustrée en fait, c'est la malaisée. Oh, c'est de là que ça vient.
C'est une des hypothèses, mais effectivement, elle n'aurait pas eu cette enfance-là à trouver l'amour, et donc elle va se venger sur la jeune fille qui, elle, est belle et a toutes ses chances de rencontrer l'amour et le prince charmant.
Avec bien sûr aussi une normativité dans les physiques et dans ce que les princesses, jeunes filles, belles doivent être.
Belles, les cheveux longs, soyeux, toutes fines, enfin... avec tout ça, la peau très blanche à l'époque, donc ça revient surtout. Et on voit donc dans les années 90, quand on va avoir La Belle et la Bête, Pocahontas ou La Petite Sirène, où on va avoir une sorte d'émancipation, on n'est plus à la recherche de l'amour forcément d'un prétendant, mais on a un objectif qui est autre. Belle, elle adore lire, Pocahontas, elle est attachée à sa terre, La Petite Sirène veut explorer le monde avant de rencontrer Eric. Et oui, je suis fan aussi, hein. Désolé, je les avais en cassette, je les ai en DVD maintenant, donc je les connais aussi. Et on voit cette évolution aussi, et elles sont aussi, elles adorent la nature. Elle chante avec les petits oiseaux.
Ouais, on aime bien ça, nous les meufs. On fait ça tous les matins. On ouvre nos fenêtres comme dans les dessins animés. Ta-la-la.
Et on chante, il y a les petits oiseaux et tout ça.
Qui nous répondent et tout.
Donc il y a aussi cette communion avec la nature qui reste encore, mais qui est moins présent et qui est aussi critiquée. Je pense à Shrek, quand il y a Fiona qui chante dans la forêt et qui chante tellement haut que l'oiseau essaye de le suivre, mais en fait, il explose pour pouvoir bouffer les œufs parce qu'elle se retrouve toute seule dans la forêt. Donc, on voit jusqu'où la critique peut aller là-dessus et commencer. Mais effectivement, tu disais, avec les nouvelles héroïnes, on a la fille aventureuse qui ne pense même pas à la relation, parce que quand on prend Elsa, donc la Reine des Neiges, elle est pas du tout, il y a pas d'histoire d'amour avec son personnage là, c'est avec sa sœur où il y a des histoires d'amour, et même sa sœur se fait embobiner par un homme parce que cet homme veut récupérer le trône. Donc c'est même pas l'héroïne, c'est sa sœur qui va.
C'est le prince charmant.
Soi-disant charmant, mais pas du tout.
Et on montre un autre aspect des relations amoureuses qui sont pas nécessairement le premier coup de foudre, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, quoi.
Exactement, et même l'héroïne principale qui n'est pas dans cette relation-là, elle, ce qui l'intéresse, c'est savoir son pouvoir, comment le contrôler et d'où vient tout ça, quoi.
Et Vaiana également, on n'a pas de, si je mes souvenirs sont bons, il n'y a pas de relation amoureuse du tout. Il y a une relation amicale qui se crée entre elle et le dieu Maui.
Ouais.
Mais qui est très pénible et qui est caricaturée dans... son côté aussi viriliste, en fait, qu'elle le déconstruit régulièrement.
Donc, on est quand même dans une évolution en fonction des époques. On verra les prochains dessins animés, parce qu'il y en a un qui va sortir qui s'appelle Vaya et le dernier dragon. Donc, à voir aussi comment ça se présente. Mais effectivement, Sarah terminait sur cette phrase en disant que... qu'il n'y aurait pas de problème si Walt Disney ne s'est pas transformé en empire capitaliste et qui a toutes ces histoires d'argent derrière, parce que c'est vrai que les histoires commencent à se développer. Après, on peut aussi, là je parle de l'univers Disney, mais il y en a d'autres, comme par exemple quand on compare les dessins animés qu'on pouvait avoir en étant nous jeunes et les dessins animés qu'on propose aux jeunes aujourd'hui. On commençait à en parler tout à l'heure, différence.
Parce que là, on a parlé en partie des filles et de l'évolution des personnages féminins sous une grosse enseigne, hein, donc Disney, ouais. Tu disais par exemple, on peut faire en miroir. Alors, je sais, ça reste toujours un peu binaire, hein, du coup, donc on attend. Alors, on peut parler au moins, par exemple, de Souvenirs de Gravity Falls et Steven Universe, où on commence à avoir des personnages... dont le genre est moins flagrant qu'à l'accoutumée. Je ne sais pas si ma phrase est correcte. Hein.
Mais avec des gens un peu plus fluides. On ne peut pas dire c'est une fille, un garçon. Et même au niveau de la représentation, et même au niveau de... Ouais, et même au niveau de la voix. Quand on entend la voix du personnage, on ne peut pas dire « Ah, c'est une fille ou c'est un garçon. »
Voilà. Donc il y a au moins ces deux dessins animés-là qu'on peut... signaler avec Souvenir de Gravity Falls, qui est regardable parce que ça se fait à partir de 6 ans. Steven Universe, je dirais un peu plus tard, parce que c'est quand même un truc assez complexe.
Il y a du combat quand même.
Et tout,
il y a du combat aussi.
Puis pour comprendre l'histoire et tout, c'est plus complexe. Chez les garçons, comme on a dit que ce dont ils étaient victimes à cause de cette éducation genrée, on l'a dit, hein, le coup de la masculinité toxique, il faudrait, pour contrebalancer ça un peu, et c'est Aurélia Blanc qui l'écrit également, donc c'est reconnecter les garçons avec leurs émotions, puisqu'on verra, essayez chez vous, hein, faites l'expérience, regardez n'importe quel film... courant adulte, vous voyez que les émotions qui sont les plus présentes, c'est la colère, la volonté de vengeance, la frustration, pas content. Et ben dans les livres et les dessins animés, c'est pareil. Cultiver l'empathie plutôt que l'esprit de domination. Donc on voit aussi un des torts des dessins animés, beaucoup de dessins animés, même quand ils sont moins problématiques au niveau des représentations de genre ou même de la morphologie, mettre des petits, des grands, des potelés, des tout minces, tout ça. Ça tourne beaucoup sur de la bagarre, ou alors il faut sauver le monde et tout, ça met quand même vachement de pression sur les enfants quand même. Il y en a quelques-uns pour lesquels il n'est pas question de ça. Alors, je pense, un pour les plus petits, qui est très bien à la fois pour les filles, pour les garçons. Alors, ça va vous choquer parce que un dessin animé pourrait être regardable par n'importe qui, fille ou garçon. Mmh. Mais n'empêche que quand on veut faire passer une valeur, quand on veut transmettre quelque chose d'autre que le stéréotype qui est transmis habituellement. Du coup, il faut qu'on sélectionne et peut-être que les filles et les garçons ne seront pas amenés à regarder la même chose à cause de la société qui nous entoure. Un garçon qui, dont on repère qu'arrivé à l'école, se met plus facilement à se battre, à jouer à « je suis plus fort, tuer, tout ça et tout », on dit ah, « peut-être que c'est le moment de lui montrer d'autres formes de masculinité » et donc de lui présenter Mouk Mouk, par exemple. Mouk Mouk très chouette avec Chavapa et Mouk, évidemment, d'où le titre, qui sont deux petits garçons. Alors, c'est pas des garçons, ils sont masculins, mais c'est je sais pas, un chat et un nounours. Dans l'habitude que les dessins animés ont hein, de faire de l'anthropomorphisme sur des animaux, mais qui traversent le monde à vélo. Mais partout où ils vont, ils sont très très régulièrement accueillis par des animaux genrés plutôt féminins. Et ils découvrent des tas de choses. Ils découvrent une coutume locale, une habitude, un savoir-faire. Et c'est assez vraiment super chouette, passionnant. Ils se ratent, ils se trompent, ils dorment mal, ils se fâchent, ils sont tristes, ils doutent. Donc il y a vraiment toutes ces émotions-là qui sont brassées, donc elle est vraiment plutôt cool. Ou je pense aussi à Simon. Ça, c'est Simon. Hyper pénible aussi. Hein, comme truc, hein. Vous allez souffrir, les parents, c'est sûr. Il y a très peu de femmes, hein, donc tout n'est jamais parfait. Hein. Il faut bien se dire ça, hein, que si on passait à la grille, voilà, il y a peu de choses qui pourraient avoir grâce aux yeux de militants extrêmement aguerris. Mais Simon est un petit lapin avec son petit frère et ses parents hétérosexuels pour des lapins, c'est des lapins. Oui, on peut être hétérosexuel chez lapins. Mais la mère n'est pas habillée en robe. C'est chez les animaux humanisés, entre guillemets. Hein, c'est assez exceptionnel. Elle est en jean et en t-shirt, par exemple. Et Simon doute tout le temps. Simon a peur. Simon a la pression parce qu'il est supposé réussir à faire telle ou telle chose. Et en fait, non, il ne sait pas le faire. Il est en train d'apprendre. Ouais, Simon, pareil, c'est plutôt pas mal pour les tout petits. Et ça permet aussi de développer autre chose que de la domination, de développer l'émotion. Et un des petits trucs hein, que Aurélia Blanc nous dit pour les garçons, c'est de souvent leur parler de leurs émotions, de questionner les enfants, de dire mais comment tu as vu, il s'est passé ça aujourd'hui et tout. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, en fait? Ou alors, tiens, aujourd'hui, je te récupère de l'école. Comment vas-tu? Tu te sens bien?
Et ça revient à ce que tu disais, c'est que les élèves, quand ils arrivent, nous, par exemple, je rappelle, je suis professeur, quand on en voit certains arriver en sixième et qui n'agissent que par les points, c'est quand ils ont un manque de vocabulaire. Mm-hmm. Donc, ils ne savent pas s'exprimer autrement que par de la violence. Donc, mm-hmm. ça les aide énormément, en fait.
Mm-hmm. Voilà, travailler sur les émotions et pouvoir réinterroger les enfants quand ils regardent, prendre le temps des fois de regarder avec eux. Alors c'est vrai, on en a cité quelques-uns dont les génériques et tout étaient un peu pénibles, mais il y en a vraiment des chouettes. Je pense à l'Avatar, le dernier maître de l'air, pour le pareil, les 6...
On en avait déjà parlé un peu, je crois, voilà, la dernière fois.
Peut-être, hein, donc les 6... Je peux même pas dire 10 parce que moi j'ai regardé, voilà, j'ai 40 ans et tout, je m'éclate toujours à regarder. J'ai regardé toutes les saisons plusieurs fois, enfin je sais pas combien de fois les a regardées d'ailleurs, mais... Donc où là, on a un groupe d'enfants, filles comme garçons, avec une enfant aveugle, qui ont certains pouvoirs, mais un enfant qui n'a pas de pouvoir magique, un garçon qui n'a pas...
Qui fait quand même partie de la team.
Mais qui fait partie de la team et qui développe ses propres compétences, parce que lui, son truc, c'est un peu l'ingénierie de projet, quoi. Ça va être un futur militant associatif. et ils sont ensemble. Alors certes, ils doivent se battre, ils doivent sauver le monde et tout, mais il y a aussi énormément de bons sentiments là-dessus. On pose beaucoup la question de l'importance de la vie humaine, parce que même les méchants... ne sont pas mis à mort hein, quand même le super maître du feu le super chef le méchant à la fin n'est pas arbitrairement mis à mort. On lui enlève son pouvoir de domination en fait et ces enfants là sont dans un monde qui aurait l'air fantastique puisque évidemment ça n'existe pas tout ce monde là mais qui est en fait très réel puisque le sexisme est présent. Certaines fois, des maîtres, les maîtres de l'eau refusent d'enseigner la maîtrise de l'eau de combat à la jeune fille, parce qu'elle, elle est, comme elle est jeune fille, elle est certes maître de l'eau, mais elle est supposée s'en servir que pour le soin. Ça nous rappelle quelque chose dans notre société.
Pour les petites cures.
Voilà, pour soigner, grâce aux propriétés de l'eau, tout ça, ça doit être aussi des militants de l'homéopathie. et donc, elle serait obligée de se cantonner à soigner les blessés pendant que l'autre, est là, il va sauver le monde, quoi.
Et il y a beaucoup d'émotions, même chez les garçons. On voit souvent Aang et le garçon de l'eau pleurer. Il y a des histoires, soit d'amitié, soit d'amour, parce qu'un est obligé de partir. Même pas mourir, mais obligé de partir. On voit Aang pleurer, on voit le garçon pleurer.
Sokka, ça parle...
Sokka, voilà. Il y a beaucoup d'émotions chez tous les personnages. Pas seulement chez les filles.
Il y a
beaucoup d'empathie qui est transmise. Et il y a un re-questionnement de la position de supposée de mère, par exemple, chez l'héroïne un peu la plus âgée, qui aurait tendance à se comporter effectivement de manière maternelle. Et les autres le lui reprochent, par exemple. Et elle est obligée d'en prendre conscience et de dire, bah, tiens, en fait, oui, c'est vrai. Elle avait endossé le truc de se dire, bon, il faut se coucher tôt pour être en forme, pour sauver le monde demain. Faut ranger nos affaires, nanana. Et à un moment, elle dit, oh, c'est bon, t'es pas notre mère et tout. Et elle le découvre et elle se dit, ah. Et il y a une remise en question à chaque fois de ces enfants. Et sur les couples, ce qui est chouette aussi, c'est que c'est jamais fixé. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs couples, ce qui est assez surprenant et qui est important à dire aux enfants maintenant à l'aune de Facebook où quand on se met en couple, on l'annonce sur Facebook et on doit donc enlever tout. Alors, je suis hyper ringarde parce que peut-être que les jeunes n'ont plus de Facebook maintenant.
Ah si, ça continue quand même.
Quand même un peu. Où les filles sont obligées d'enlever tous les copains Facebook et les garçons doivent enlever toutes les filles Facebook parce qu'on a
décidé... Et surtout s'il y a des ex.
Voilà, surtout s'il y a des ex. On ne peut pas considérer qu'il puisse y avoir une pluralité, une complexité dans le parcours amoureux.
Et en plus de cette saison-là, il y a la suite qui est sortie et qui est sur la même, les mêmes idées, les mêmes...
Les héros sont un peu plus âgés.
Plus âgés et surtout, il y a une héroïne maintenant.
Oui.
Donc, il y a tout ça qui...
Voilà, l'avatar, pour une fois, donc le personnage central est une femme et on ne va pas spoiler le reste.
Mais même, je crois, dans les avatars précédents, dans la série avec Aang, il y avait déjà des femmes, donc c'est pas cantonné non plus à...
Non, mais je pensais que tu t'allais spoiler sur la fin de l'avatar Korra.
Non, mais en plus, je ne l'ai même pas vu celle-là.
Ah, voilà. Donc, qui est la cerise sur le gâteau et tout, mais on ne va pas spoiler.
Super, donc hâte de réentendre ce projet parce que franchement, ça fait deux fois qu'on en parle, mais on est content parce qu'il fait du bien, ça donne plein d'idées et tout ça.
Voilà.
Oui, Mara.
Oui, juste dire que ce projet, cette petite valise, cet outil, il va être, vous l'aviez peut-être dit à l'émission précédente, mais décliné en livret et qu'en fait, voilà.
Oui, c'est à propager pour qui veut. Donc n'hésitez pas à nous contacter au planning familial si vous êtes intéressé par ce projet-là, effectivement. Donc, nous arrivons à la fin de notre émission. Ça passe trop vite à chaque fois. C'est impressionnant. Là, en plus, on avait plein d'idées et tout ça. On a dit la moitié des choses qu'on voulait dire. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, merci à toutes les trois pour cette émission. Et puis, on se donne rendez-vous le mois prochain.
Merci à toi.
Merci. Au revoir tout le monde.
Au revoir. Et bonne année.
Le gang des histoires.
Le gang.